c'est bon.
Rouge des prés.
De chez le boucher.
En boucher.
En faufilé.
En anglais.
Dans un étoilé.
Dans un troquet.
En pavé.
En chili con carne.
Grillé.
Mariné.
Rissolé.
En gelé.
Fumé.
Parfumé.
Mijoté.
Snaqué.
Du Loiret.
De Vendée.
De Franche-Comté.
Et sans compter.
Chez nous, le bœuf. C'est si bon. Qu'il y en a pour toutes les bouches.
Oui,
oui. IKEA. Profitez dès maintenant de nos prix baissés sur nos cuisines méthodes. C'est l'occasion de réaliser des projets qui vont vous régaler. Nouveau prix valable depuis le 22 novembre sur les caissons méthode blanc, les tiroirs Maximera et les façades Voxtorp en nouveauté. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Il est 20h. Les informations. Maëlle Hassani. Bonsoir Maëlle.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous. L'assaillant de Souffel-Weyersheim dans le Bas-Rhin est sorti de garde à vue. Il a été présenté à un juge en vue d'une mise en examen pour homicide volontaire. Le parquet demande son placement en détention provisoire. Cet homme de 30 ans a attaqué deux fillettes de 7 et 11 ans au couteau près d'une école hier. Elles sont légèrement blessées, mais dans un collège confiné à proximité, une élève de 4e est décédée d'un arrêt cardiaque à cause du stress. Les deux mineurs mis en examen pour assassinat après le meurtre de Philippe à Grande-Synthe dans le Nord vont dormir en prison ce soir. Ces adolescents de 14 et 15 ans ont reconnu avoir fixé un rendez-vous à ce jeune homme de 22 ans sur un site de rencontre en ligne. L'un des deux suspects seulement reconnaît avoir porté des coups. Une marche blanche en hommage à Philippe était organisée ce matin à Grande-Synthe. 1500 personnes étaient présentes. On en sait davantage sur l'homme qui s'est introduit avec de fausses grenades à l'intérieur du consulat d'Iran à Paris. Il possède la nationalité iranienne et s'en était déjà pris à l'ambassade de son pays d'origine en septembre dernier. Il avait mis le feu à des pneus devant les grilles du bâtiment et devait être jugé en appel pour ses faits lundi prochain. Le suspect a été interpellé après des négociations menées par la BRI. Il est en garde à vue. Pas de lien établi entre cette intrusion et les tensions actuelles entre l'Iran et Israël. La France réitère ce soir son appel à cesser l'escalade militaire au Moyen-Orient. Ce matin, des explosions ont été signalées dans le centre de la République islamique. Des frappes qui auraient pu être interprétées comme la riposte d'Israël à l'attaque sans précédent du week-end dernier. Mais l'État hébreu ne revendique pas ses actions. La presse officielle iranienne assure qu'aucune information sur une attaque de l'étranger n'a été transmise. Ses positions sur le conflit israélo-palestinien sont largement controversées. La candidate LFI aux prochaines élections européennes, Rima Hassan, est convoquée par la police en audition libre pour apologie du terrorisme. Ce que les autorités lui reprochent, ce sont des déclarations publiques sur les attaques du Hamas en Israël entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier. La militante franco-palestinienne a réagi. Elle promet, je cite, de ne pas se laisser intimider par des manœuvres purement politiciennes. La marche contre le racisme et l'islamophobie prévue à Paris dimanche prochain pourra finalement avoir lieu. Hier, la préfecture de police avait interdit ce rassemblement en raison de forts risques de troubles à l'ordre public. Mais le tribunal administratif suspend cet arrêté ce soir. Plusieurs figures d'extrême gauche sont attendues dans cette manifestation, dont Assa Traoré et des élus LFI. Et puis l'autoroute A13 devrait rouvrir lundi prochain. Une portion de cet axe prisé des Parisiens qui souhaitent se rendre en Normandie notamment est fermée depuis hier soir à cause d'une fissure d'une profondeur de 50 à 80 cm sur la route. Une fermeture qui a des conséquences en ce week-end de retour de vacances dans la zone C. Vous écoutez Europe 1, il est 20h03, Europe 1 Sport, le studio des légendes, c'est maintenant avec Jacques Vendroux.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Bonsoir, le studio des légendes, exceptionnel en ce vendredi 20h, 21h sur Europe 1. Au programme, le tournoi des Six Nations féminins ce week-end, et analyse bien sûr de nos experts avec les qualifications formidables du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille pour les demi-finales de la Ligue des Champions et de l'Europa League, et bien sûr une équipe formidable de l'Olympique de Marseille qui a réussi à une prestation assez exceptionnel. On se retrouve dans quelques secondes avec tous nos experts, Alain Giresse, Maxime Hérignoux, Océane Daniel, Cyril de la Morinerie et, mesdames et messieurs, son excellence, sérénissime, Fabien Otaniente qui est là, exceptionnellement. Alors, on commence par le rugby féminin. On en parle beaucoup sur Europe 1. La France a gagné ses deux premiers matchs contre l'Écosse, 15-5, et face à l'Italie, 38-15. L'équipe de France joue dimanche au Pays de Galles. Et avec nous, le président de la Fédération française de rugby, Florian Grill. Bonsoir, président.
Bonsoir, Jacques. Elle a même gagné ses trois premiers matchs.
Oui, ses trois premiers matchs. Vous avez complètement raison. Et donc, je serais tenté de vous dire que cette équipe de France de rugby féminine, je pense qu'elle peut gagner cette année. Je sens bien l'affaire.
On y croit, elles ont un jeu, il faut déjà battre les Galloises chez elles, hein, c'est pas une mince affaire, mais elles jouent un jeu très ambitieux et on aura, si on bat les Galloises, une finale incroyable à Bordeaux. On espère battre le record contre les Anglaises.
Le 27 avril à Bordeaux.
Le 27 avril après-midi, exactement, 17h45. Ça sera le crunch contre les Anglaises, peut potentiellement la finale du tournoi, mais il faut déjà battre les Galloises chez elles. Mais on espère bien battre le record d'affluence dans un stade pour du rugby féminin à cette occasion.
Alors justement, quelle est la force de cette équipe de France féminine?
Elle joue un jeu très ambitieux et elle a raison parce que pour jouer les Anglaises, qui sont une équipe très solide et qui quand même domine beaucoup le rugby destination, bah, il faudra envoyer du jeu et donc c'est ça. Le jeu appelle les fautes aussi. Donc là, le début de tournoi a permis de caler plein de choses. Ça s'est très bien passé le dernier match à Jambouin, où il y avait d'ailleurs une ambiance assez formidable. Ça se voit dans les audiences télé parce qu'on voit que la France du rugby a envie de suivre cette équipe féminine. Et si on veut battre les Anglaises, il faut ce jeu ambitieux et elles ont bien raison de jouer comme ça.
Il y a eu un phénomène équipe de France féminine avec Wendy Renard, par exemple, en football. Et je crois, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène équipe de France de rugby. J'ai l'impression, hein.
C'est pas qu'une impression. En tout cas, moi, je connais un petit peu les médias, les chiffres le confirment. On fait des audiences télé à plus de 2 millions de téléspectateurs et surtout des parts d'audience. Alors, c'est un qui montre qu'en fait, on est numéro un sur ces créneaux horaires, y compris devant d'autres chaînes de télévision. Donc, ça prouve que, de toute façon, je le dis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, la France a envie de rugby. La France a envie de rugby et le rugby féminin répond complètement aux attentes des Français. C'est formidable maintenant d'avoir décalé le tournoi destination masculin et le tournoi destination féminin parce que ça lui donne une vraie légitimité et on voit que les gens suivent le tournoi destination féminin comme ils suivent le tournoi destination masculin et avec grand plaisir.
Président, je reviens, vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Quelle est la force de cette équipe de France?
Sa vitesse de jeu, son envie de tenter les coups. Je pense que c'est le jeu qu'on produit là qui peut nous permettre de battre les Anglaises. Et puis, le mélange entre des filles d'expérience et des nouvelles. Et puis, je pense à la capitaine Manae Feleu, qui est moitié origine de Bourgogne et moitié de Futuna. C'est une fille qui est en cinquième année de médecine, qui parle couramment anglais. Franchement, c'est un joli rôle modèle pour la France. Et voilà, c'est l'intelligence de cette équipe avec ce bon alliage entre des jeunes joueuses et puis des joueuses plus expérimentées. Et puis cette envie de jouer des coups et puis de se raconter une histoire, de se faire une histoire, d'aller chercher une victoire au Pays de Galles. Déjà, c'est une étape indispensable et après peut-être un grand chelem qui nous tend les bras.
Donc elle a gagné ses trois premiers matchs, vous nous l'avez rappelé. Le prochain rendez-vous, vous l'avez dit, c'est dimanche contre le Pays de Galles au Pays de Galles. Et surtout la finale déjà du tournoi des cinq nations, eh bien à Bordeaux, France-Angleterre, le 27 avril. Et vous l'avez dit, le stade Jacques Chaban-Delmas va être plein à craquer.
Ouais, on l'espère, là on voit que les ventes sont exponentielles, donc il reste encore quelques places.
Mais c'est bien tout ça, président, je suis content.
On sera à 28 000, on battra, on explosera le record pour un match de rugby féminin. Et je pense que les supporters sont là, ils ont envie de voir cette équipe de France. Et franchement, elle donne le sourire, elle pratique un rugby de mouvement, un rugby aéré. C'est très agréable à voir, les vrais amateurs de rugby prennent leurs pieds, je peux le dire comme ça.
Merci en tous les cas, président Florent Grill, merci d'être venu sur l'antenne d'Europe 1, vous êtes un de nos fidèles. Et je vous signale en passant que nous avons sans doute, grâce à vous, parce que vous venez souvent dans notre émission, eh bien nous avons de plus en plus d'auditeurs. Vous êtes 159 000 à nous écouter le vendredi, le samedi et le dimanche. Et au nom de toute l'équipe du Studio des Légendes et de toute la grande famille d'Europe 1, merci à tous de votre fidélité. Et je rajoute également que vous êtes plus de 2,3 millions, donc plus de 2,3 2 300 000, voilà, on va dire ça comme ça, 2 300 000 à nous écouter tous les jours, et vous êtes 223 000 à nous avoir rejoints en un an. Voilà, j'espère avoir été clair. Au nom des chères auditrices et des auditeurs d'Europe 1, au nom de toute la grande famille d'Europe 1, j'aimerais vous remercier de votre fidélité. Vous êtes plus de 2 300 000 à nous écouter tous les jours et vous êtes 223 000 à nous avoir rejoints en un an. Voilà, c'est clair, net et précis. On va parler football maintenant. Thématique football avec Guillaume Barmuse, Alain Giresse, Maxime Hérignoux, Océane Daniel, Cyril de la Morinerie et Fabien Otaniente. Alors, il y a la qualification du Paris Saint-Germain, bien sûr, qui jouera contre Dortmund le 1er mai et retour le 7 mai au Parc des Princes. Et puis, il y aura surtout le match contre l'Olympique de Marseille. Mais on va y revenir dans quelques secondes. D'abord, la qualification du Paris Saint-Germain. On écoute la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.
Hyper contente parce que je trouve que les commentateurs avaient été un peu durs après le match à l'aller, y compris à l'égard de Mbappé. Il nous ressort à nouveau là un énorme match. Moi, je me dis à chaque fois, c'est vraiment la marque des champions, quoi. Au moment ultra décisif, il fait la différence. Donc, cette remontada à l'envers, ce 4-1 là contre le Barça, c'était bon. Moi, je trouve que la posture, la position de Luis Enrique, son voilà, c'est cette dimension tactique, tout ça est très intéressant à suivre. Ils ont une opportunité dingue là contre Dortmund. On va suivre tout ça de très près. C'est ce que le sport nous apporte de grand, ces moments de partage, d'émotion, d'admiration. Et puis ce sport d'équipe qui est quand même absolument génial, quoi. Le foot, c'est quand même allez, un peu à part.
Et demain, nous sommes à 97 jours du début des Jeux Olympiques, le vendredi 26 juillet au dimanche 11 août, et invité du studio des légendes des sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, eh bien, Amélie Oudéa-Castéra. Donc demain, 20h-21h, on l'enregistrerait tout à l'heure, et je vous signale qu'elle a été excellente. Alors on écoute, bien sûr, puisqu'on fait une thématique football, je voudrais qu'on revienne bien sûr avec nos experts. On parle de Dortmund, on va parler aussi de la belle victoire du Paris Saint-Germain. Et donc, on a Guillaume Barmuse. Bonsoir Guillaume, ancien gardien de Lens, ancien gardien de la Borussia, ancien gardien du Borussia Dortmund aussi. Comment vous voyez ce match aller-retour? Parce que vous avez joué à Dortmund, vous connaissez très bien. Premier match à Dortmund, deuxième match au Parc.
Pour être tout à fait objectif, je pense qu'avec ce qu'a démontré le PSG, Paris est logiquement favori. Maintenant, on a vu aussi que le Borussia, cette saison, est capable de belles choses, voire de très belles choses, parce que sur le match retour de l'Atlético Madrid, même s'il y a eu rapidement une prise de position sur le score, Madrid est revenu en deuxième mi-temps, mais Dortmund a quand même infligé à une équipe qui est quand même une constante, où c'est quand même compliqué de lui marquer des buts. Donc, d'en mettre 4 à l'Atlético, ça veut dire aussi quelque chose. Maintenant, le match retour est à Paris, c'est non négligeable, et je crois que voilà, ça va être une très belle confrontation.
Et l'ambiance là-bas à Dortmund, c'est terrible. Hein.
C'est
incroyable.
L'ambiance, c'est on aime beaucoup le Racing Club de Lens au niveau de l'ambiance.
Bien sûr.
Je suis bien placé pour le savoir, mais Dortmund, c'est deux fois Lens. Et à Lens, on a 45 000 et à Dortmund, on a 80, un peu plus même, 82. Donc, c'est vraiment assez phénoménal. Maintenant, c'est aussi, ça fait partie des grands matchs européens. Les Parisiens ont l'habitude de ça aussi, mais c'est vrai que ça va être une vraie belle confrontation parce que le Borussia est une équipe qui garde une philosophie de jeu depuis l'ère Klopp, et elle reste fidèle. Paris est consistant, ça va être beau à voir, je pense.
Et c'est vrai que cette équipe de Dortmund est forte, hein.
Elle est très forte, notamment dans sa vivacité, dans je pense qu'il y a toujours, il y a une continuité avec l'entraîneur sur ce qu'avait fait Jürgen Klopp, sur ce qu'il avait lancé. Il a conservé. Il y a une stabilité aussi. Ils ont un bon gardien, la défense ne bouge pas beaucoup. Il pose beaucoup de problèmes aux adversaires. Et moi, je pensais que l'Atlético, au regard du 2-1 du match aller, allait quand même réussir avec toute leur expérience
à leur poser plus de problèmes. Et finalement, offensivement, ils ont été très percutants. Donc, je crois que leur capacité offensive, elle est vraiment redoutable.
En tous les cas, merci Guillaume Varmuse, ancien gardien légendaire du Racing Club de Lens et de Dortmund. Merci Guillaume. À très vite sur les terrains, bien sûr, et à très vite sur l'antenne d'Europe. C'est le Studio des Légendes, 20h-21h, c'est en direct. Et on va parler football maintenant avec Alain Giresse, Maxime Hérignoux, Océane Daniel, Cyril de la Morinerie et Fabien Toniente. À tout de suite.
20h-21h,
le Studio des Légendes,
sur Europe 1.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h-21h,
le Studio des Légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, enfin, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de moi de me le dire.
Jacques Vendroux.
Thématique football, le Studio des Légendes, 20h-21h. Sur Europe 1 avec Alain Giresse, Maxime Hérignoux, Océane Daniel, Cyril de la Morinerie et son Altesse Sérénissime Fabien Otaniente qui nous fait l'amitié de nous rendre une petite visite. Merci Fabien. On se retrouve dans quelques secondes. Fabien, vous avez plein de choses à nous dire. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur ce match à Barcelone entre le Paris Saint-Germain et Barcelone. Barcelone qui est battu, qui est exécuté, entre guillemets, qui est un peu humilié malgré tout, on peut le dire. Et moi, je voudrais avoir votre analyse. On commence par Alain Giresse. Alain Giresse,
oui,
ça va, tu peux vous réveiller, Alain?
Non, ça non. Merci, Jacques.
Vous en faites une sieste, non?
Non,
20h16.
Il y avait des décalages horaires.
Ah, il y a des décalages horaires, voilà. Alain, vos propos ne peuvent pas. Je sais que votre vie, maintenant, est tournée vers le 14 mai pour le 100e anniversaire du stade Jacques Chaban-Delmas, avec un match historique à 20h, une nouvelle fois avec le Variété Club de France et les anciens Bordelais. Et je vous dis, tous les anciens Bordelais seront présents.
Ah,
vous entendez bien?
C'est une bonne nouvelle.
Tous les Bordelais et le stade
les vrais.
Plein. Les vrais Bordelais, hein, les vrais Bordelais, hein, voilà. Voilà.
Pas les imitations.
Ils sont tous là.
Non.
Et le stade. 32 000 billets vendus. Extraordinaire, grâce à Alain qui s'investit énormément. Voilà, je vous le dis. Alain Giresse, on revient sur Barcelone, Paris Saint-Germain.
Ah, mais pas grand-chose à redire. Vraiment un match exceptionnel, abouti dans tous les sens du terme. C'est une évidence. D'abord parce qu'il fallait que Luis Enrique remette un peu d'ordre et nous compose une équipe cohérente, ce qui a été fait. Voilà, et tout le monde était à sa place, chaque joueur dans sa position préférentielle. Et puis évidemment, des joueurs complètement motivés. Un fait de jeu qui n'a pas été négligeable. Et puis voilà, c'était une très belle performance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'on peut saluer cette victoire, qui est une très très grande victoire. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on pensait au match aller à Paris, qui celui-là nous avait... Il nous restait un petit peu en travers de la gorge. Mais non, voilà, c'est vraiment une belle, belle prestation, très belle prestation, digne d'une équipe qui va aller jouer cette demi-finale.
Allez-y, Alain.
Non,
parce que Alain a un toc. Ça peut arriver, hein, il est soigné, il est suivi par des psys, oui, etc. Il faut que toutes les 4 heures, il mange un yaourt. Autant le savoir, c'est tout, c'est pas la peine de...
C'est quoi le goût ce soir, Alain?
Non,
ça change tout le temps.
Ah oui,
demandez
ça change tout
à
le temps.
Non, demandez à Benoît.
C'est son histoire, voilà. Bon, on revient. Terminez, Alain, sur...
Évitez de parler de ma vie privée.
S'il vous plaît.
Non, simplement, je veux pas casser l'ambiance par rapport à ce match fabuleux. Il faut pas que le Paris Saint-Germain retombe dans des travers que malheureusement il a eu et... Le match à domicile en est un exemple. Il faut que, si on peut faire un match référence, c'est celui-là, et c'est sur ce match qu'ils doivent s'appuyer. Et là, les plus belles perspectives sont là.
Maxime Hérignoux.
Déjà, jamais un club français battu au match aller à domicile ne s'était qualifié en Ligue des Champions. C'est la première fois. Donc, et en plus, à Barcelone, c'est encore plus fort. Moi, je tiens à souligner la performance, notamment, on en parlera, je pense que mes collègues sont d'accord avec moi, mais de Vitinha, qui au milieu a été assez étincelant. Et Luis Enrique, je pense, a trouvé son équipe type. Au match aller, il y a eu quelques absents, notamment Barcola, qui était suspendu. Beraldo était derrière. Voilà, là, aujourd'hui, avec ce 11 de départ, peut-être Fabian Ruiz, qui est peut-être la seule incertitude pour la suite. Un Kylian Mbappé qui n'a pas été exceptionnel, mais tant mieux pour le PSG, parce qu'il n'est plus dépendant de Kylian Mbappé, et le collectif est avant tout mis en avant.
Non, Barcola était très bon.
Barcola était très bon, Dembélé, bah oui, totalement. Donc voilà, c'est des joueurs sur lesquels il faudra compter pour aller chercher la qualif en finale à Dortmund.
Océane Daniel.
Bah d'abord, Jacques, quel plaisir de voir une équipe française en demi-finale de Ligue des Champions. Ça fait toujours un bien fou. Pour revenir au match, on a vu l'ouverture. Enfin, ils ont fait un très bon début de match. Ils ont été freinés par l'ouverture du score de Barcelone, de Rafinha. On s'est dit, il faut remonter deux buts. Ils avaient deux buts de retard. On a douté un petit peu, pas longtemps. On a vu le Barcola qui était étincelant sur son côté. Il a proposé. Il a fait une belle passe D pour Ousmane Dembélé avant la mi-temps. Ensuite, on a vu un grand Paris Saint-Germain avec des joueurs comme Vitinha, Marquinhos qui a été très 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 solide derrière. Deux sauvetages en deuxième mi-temps qui clairement sauvent le match. Ensuite, là, on va affronter Dortmund. On sait ce qui s'est passé en début de saison. On les a battus 2-0 à l'aller et 1-1 au retour. Maintenant, le PSG a les armes pour aller en finale et j'espère que c'est ce qui va se passer.
Cyril de la Moridrie.
C'est un match fondateur. On va pas revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce match, mais je pense que c'est l'état d'esprit qui m'a vraiment frappé. C'est-à-dire que les Parisiens sont vraiment dans une situation très difficile lorsque l'équipe du Barça ouvre la marque. Et puis derrière, il y a une sérénité qui moi m'a absolument impressionné. Sérénité pendant le match, sérénité avant le match. Et puis, ces jeunes, ce Barcola qui prend vraiment une ampleur phénoménale, Vitinha, on l'a dit, qui rayonne au milieu de terrain, donc je pense que pour la suite et pour ce match face à Dortmund, il va falloir rester prudent. C'est une grande équipe, il y a le mur jaune. C'est un club que bon, moi j'adore. J'ai pu faire plusieurs matchs, notamment un match, je me rappelle, contre Monaco. Il y avait eu une tentative d'attentat et les supporters.
Le match avait été décalé.
Et le match avait été décalé. Et j'avais été voir des supporters allemands qui avaient accueilli des supporters monégasques chez eux et qui avaient pris une journée de congé. Et donc c'est vraiment un club extraordinaire. Il y aura une grande ferveur. Je m'attends vraiment à un très grand match, mais je pense que le Paris Saint-Germain peut effectivement aller au bout et pourquoi pas succéder à l'Olympique de Marseille.
Et Fabien Antoniente, alors que vous n'entendez pas très souvent sur Europe 1, parce qu'il a une raison complètement valable, il est en train de tourner un film qui va de toute façon être un succès phénoménal, 4-0, et hier soir il tournait au Parc des Princes, et donc Fabien a beaucoup de travail en ce moment. Et quand il est libre, il nous fait quand même l'amitié de venir.
Merci Fabien.
Sur Europe 1, comme ce vendredi soir.
C'est voilà. Un plaisir parce que, en fait, ce film réunit deux passions, le cinéma et le foot. Et donc, j'ai la chance de tourner depuis mardi au Parc des Princes. J'ai tourné hier avec des joueurs de foot. On a tourné sur la pelouse. Merci aussi au grand manager qui est un peu fumeux du jardinier, mais qui nous a permis de tourner sur la pelouse mythique du Parc des Princes.
Jonathan Calderwood,
ouais, qui nous a fait la gentillesse de nous autoriser. Donc on est pour de vrai. Mais j'ai vécu une semaine absolument dingue parce que quand le jour du match, on tournait pendant le match et on avait des gens invités par le Paris Saint-Germain qui étaient dans un auditorium en dessous du couloir qui mène à la pelouse. Et nous, on entendait tout au son. Et quand j'ai entendu qu'on avait pris un but, bon, ben là, il n'y avait plus rien. Mais après, j'ai entendu rumeur. Et donc, je n'ai pas vu le match. Je l'ai vu après en replay. Mais je l'ai vécu d'une manière unique. Et cette semaine a été une belle semaine, exceptionnelle, parce que nous étions dans l'antre de ces héros. Et je trouve que cette année, il n'y a pas à dire.
Il y a quelque chose en plus.
Il y a quand même une patte qu'a imprimée l'entraîneur Luis Enrique, qu'on le veuille ou non. Il a réussi sa saison. Il y a des joueurs qui émergent et qui sont fantastiques, comme Vitinha, Barcola. Et je trouve que l'équipe et on joue plus à 11 qu'avant. C'est moins des individualités mis bout à bout. Et je suis heureux de voir ce Paris Saint-Germain. Je suis supporter depuis très longtemps du Paris Saint-Germain, mais là, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Alors, si ça peut sourire, on peut aller en finale. Et moi, pour moi, j'aimerais bien un PSG Real pour clore.
PSG Real,
la chose.
Non mais PSG Real,
ce serait,
oh là là.
PSG ce serait,
Real.
Je me donnerais pour voir ça.
À Wembley. On part demain.
Et puis, je suis heureux aussi pour cette station Europe 1 qui a gagné beaucoup d'auditeurs. Donc finalement, c'est une très belle semaine.
Alors attendez, je vais le rappeler une nouvelle fois. Chers auditeurs, chères auditrices, au nom de toute la grande famille d'Europe 1, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité. Vous êtes plus de 2 300 000 à nous écouter tous les jours et vous êtes 223 000 à nous avoir rejoints en un an sur l'ensemble de la station. Donc un grand merci à tous les auditeurs. Et sinon, sachez que vous êtes 159 000 quand même à écouter notre émission Le Studio des Légendes les vendredis, samedis et dimanches de 20h à 21h. Et là, au nom de toute l'équipe, eh bien, du Studio des Légendes et toute la grande famille d'Europe 1 encore, merci à tous de votre fidélité. Vous aviez un petit commentaire à faire ?
Non, aucun.
Vous êtes content pour nous ?
Très content.
Voilà, c'est grâce à vous. Hein ?
C'est grâce à vous, Jacques.
Non, c'est pas grâce à moi, c'est grâce
vous êtes là à toutes les émissions, non, on est de passage. Oui.
Alors, nous, on remercie les auditeurs pour toute leur fidélité parce que c'est une maison absolument incroyable.
C'est une très belle maison, cette maison bleue. Et je suis heureux aussi pour Pascal Praud qui était un copain. Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait un monsieur en bleu.
Et moi, je suis content pour Donat Vidal-Revel qui se donne beaucoup de mal. Et autant le dire, c'est pas la peine de se la faire à l'envers.
Il y a
des gens de talent. Il y a des gens de talent.
Et le talent est récompensé.
Il y a une ambiance formidable malgré tout ce que peuvent dire des donneurs de leçons. En tous les cas, c'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, on est des auditeurs en plus. Voilà. Alors, allez, le 1er mai. Alors, justement, match aller, le 1er mai à Dortmund. Oui. Match retour le 7 mai au Parc des Princes. Moi, je veux simplement, rapidement, Alain Giresse, un pronostic. Allez-y, Alain, je vous écoute. Moi, je me suis bien gouré. Hein. J'ai annoncé que le Paris Saint-Germain allait être éliminé par Barcelone. Voilà. Je me suis bien planté chez Pascal Praud. Voilà. J'assume. Monsieur Gouret, voilà.
On va parler de qualif. Ces deux équipes qui se connaissent bien se sont affrontées lors de la phase de poule. Eh bien, ça va se jouer, bien sûr, au niveau d'une demi-finale. Bon, je veux dire, Paris va se qualifier. C'est tout ça qu'on recherche.
D'accord, parfait.
Point final.
Merci Alain, vous êtes formidable. Maxime Hérignaud.
Moi, je vois un petit 1 partout au match aller à Dortmund et une qualif 2-0
grandiose,
à domicile.
Grandiose.
Voilà.
Grandiose.
Qualif au Parc des Princes.
Grandiose. Ils vont défiler sur les Champs-Élysées pour fêter
la qualif.
Et Anne Hidalgo aura un tout petit peu de travail. C'est pas grave. Océane Daniel.
Moi, je vois 2-1 à Dortmund et victoire 1-0 au Parc au retour.
Chérie de la Morinerie, allez-y.
Victoire 1-0.
Vous qui dites toujours la vérité.
Non, pas absolument. Vous je me plante comme tout le monde. Non, parce que le foot, c'est ça qui est génial, c'est que ce n'est pas
une science. Non, mais moi, je vous connais par cœur. Vous êtes toujours clair, net et précis. c'est ça.
Bon.
C'est pour ça que
écoutez,
je vous aime beaucoup.
J'espère que vous m'aimez aussi pour d'autres qualités.
Non, mais c'est une qualité énorme d'être clair, net et précis.
Ben c'est sympa, mais c'est adorable.
C'est la vérité.
Vous êtes absolument adorable. Écoutez,
voilà.
Comme c'est une soirée magique ce soir,
oui.
C'est des compliments, on est tous très heureux, il y a de plus en plus d'auditeurs. Ben, je vais vous donner mon pronostic, c'est que le Paris Saint-Germain, j'avais dit d'ailleurs lors du dernier tour que ça allait être difficile, finalement ça a été quand même difficile, mais le Paris Saint-Germain s'est qualifié. Là, je pense que le Paris Saint-Germain va se qualifier 1-0 au match aller, 2-0 au match retour, ou 2-1, et il y aura un doublé de Kylian Mbappé. Il va vraiment marquer ce match et cette double confrontation de son empreinte.
Fabien Taniente, allez-y.
Bah oui, moi je pense que comme les matchs de l'équipe de France en 98, quand les demi arrivent, ça va s'améliorer. Et moi je vois déjà la finale. Mais donc je pense que il y aura un match nul peut-être, au pire des cas au match aller et une très belle victoire au match retour. Là ça y est, il y a quelque chose qui a pris. Et moi ce qui m'a étonné, c'est que je les voyais vulnérables toujours. Il y a toujours dans le championnat un petit côté où ça s'effritait. Là, ils ont été solides, ils ont fait corps. Et je pense que c'est un match marquant.
Voilà. Marquant.
Marquant. Donc je dirais, allez, 3-0 pour rappeler mon premier film.
messieurs, madame. On va parler de l'Olympique de Marseille, ça vous dérange pas ?
Ah, j'adore.
Et c'est super le match hier soir.
Et oui.
Alors je suis très déçu pour l'équipe de Lille qui méritait pas son élimination. Vraiment, je suis très déçu.
Déception de la soirée.
Je suis très déçu pour mon ami Lucas Chevalier qui a quand même arrêté un pénalty, il a fait le maxi. Enfin voilà, il n'y a pas de réussite. Pénalty après prolongation. Et les deux équipes, eh bien, méritaient toutes les deux de gagner. C'est mal tombé sur Lille. En tous les cas,
mais le gardien était très fort, Martinez.
Ouais, enfin,
Il a quand même des méthodes qui sont hors normes.
Voilà.
Je m'excuse. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Il fait des gestes obscènes en finale de la Coupe du Monde de football au Qatar où on était, je suis
et
désolé.
Et il
a recommencé.
Il a recommencé.
Il a recommencé à faire des gestes.
Il dit Jacques qu'il aime les Français.
Il a une façon d'aimer particulière.
Ah non, c'est un type assez curieux. Donc l'Olympique de Marseille qualifié pour la Ligue Europa en battant donc Benfica de Lisbonne après prolongation et pénalty. L'OM jouera contre l'Atalanta Bergame. Match aller le 2 mai à Marseille. Match retour le 9 mai à Bergame. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Alain Giresse. Ouais, on revient sur l'OM où vous avez joué. Vous avez régalé le public du Stade Vélodrome pendant deux saisons. Moi, j'ai pas oublié. Hein.
N'est-ce pas? J'aime bien votre rappel. J'apprécie tout ça.
Non, mais c'est bien. Non, mais il faut dire la vérité. Vous avez régalé les Marseillais et vous êtes très populaire à Marseille. Moi, je vous le dis, hein, vous le savez.
Il faut dire les choses.
Si on ne peut plus dire la vérité maintenant, on fait quoi?
Alain,
je vous écoute.
Non, mais c'est une belle victoire. Elle était au courage, au forceps. Quand on a vu là, dans quel état ont fini les joueurs marseillais, ouais, ils se disaient ça va être très, très compliqué. Et ils sont arrivés et ils ont démontré vraiment un courage énorme, une volonté de tous les instants. Le public, évidemment, les a bien aidés. Et puis surtout, le gardien a été exceptionnel dans les tirs au but. Vraiment, il a une capacité pour pouvoir juger de la prise d'élan du frappeur, et il part au dernier moment, et voilà, c'était lui après qui a été déterminant, et voilà, c'est l'OM a une attraction non négligeable avec la Coupe d'Europe, et là vraiment ça y est, demi-finale. Par contre, attention, c'est pas un club clinquant qui va affronter, mais c'est un club qui vient d'éliminer Liverpool, donc remettrez-en tout en ordre, mais en tout cas, déjà, super résultat pour l'OM.
Marseille qui s'est qualifié pour la demi-finale de l'Europa League. Maxime Hérigny, votre avis?
Oui, alors...
Moi, je veux savoir si vous êtes content de Marseille. Oui, quand même.
Bah, c'est toujours un plaisir d'avoir...
Parce que les Parisiens n'aiment pas trop Marseille. Vous êtes directeur de la communication du Stade français, rugby. Demain, ils vont jouer 17 000 personnes au Stade Jean-Bouin.
Contre Bayonne.
C'est à quelle heure?
17h le match, au Stade Jean-Bouin.
Voilà. Contre l'Aviron bayonnais.
Exactement.
Un des grands clubs de rugby français
du classement. Et voilà, ça va être une belle fête.
Le Stade français est actuellement en tête. Voilà. Et donc 17 000 personnes. Bon, on peut revenir à des choses.
De Malombard.
Le ballon en Marseille. Bah, une ville de foot, Marseille. Le vélodrome.
Non, mais c'est deux villes de foot qui sont qualifiées pour une demi-finale.
Mais on peut que s'en réjouir.
Deux villes de foot, hein. Paris et Marseille.
Exactement. Et Marseille a une saison compliquée, hein, avec toutes les histoires qu'il y a eu en interne. Jean-Louis Gasset qui fait un travail extraordinaire, mais qui qualifie le club
pour
les demi-finales.
Je pense qu'il y en a certains qui se sont permis de faire des commentaires à 70 ans. Il a 70 ans, Jean-Louis Gasset. Il y a certains jeunes qui se permettent, il ne faut pas le prendre, il est carbo. Eh bien, il n'est pas du tout carbo. Regardez ce qu'il fait avec l'Olympique de Marseille.
Notamment,
il est très écouté par les joueurs et il est très écouté par les dirigeants. Jean-Louis, si tu nous m'entends, je t'embrasse. Voilà.
Alors, notamment, il est. Alors, on parle de son âge, mais en plus de ça, il lance des minots. Gaël Lafont, 17 ans. Rayman Daou, 19 ans. Qui rentrent en jeu en quart de finale de Coupe d'Europe, alors qu'ils fêtaient leur premier match.
Et qui sortent de la N3. Hein. Qui sortent de l'équipe réserve en N3.
C'est impressionnant. Même. Après, le jeu de l'Olympique de Marseille n'est pas flamboyant. Hier, on n'a pas vu un match extraordinaire.
Vous avez raison, sauf qu'ils sont en finale.
Mais ça passe. Voilà. Benfica aussi.
Moi, j'en ai marre qu'on dise qu'ils sont qualifiés, mais ils sont qualifiés, c'est le plus important.
C'est le plus important.
Dans la vie, messieurs, madame, le plus important, vous le savez bien, c'est le tableau d'affichage. On peut tourner le problème dans tous les sens.
C'est les chiffres.
Moi, je vais vous dire quelque chose par rapport à Marseille. Moi, je suis supporter historique de Marseille. Mais on ne peut pas envisager un championnat si on n'a pas un Olympique de Marseille.
Mais bien
sûr. C'est pas intéressant.
On ne peut pas envisager un championnat en Ligue 1, sans les Girondins de Bordeaux, sans la Saint-Etienne. Voilà. Faut pas se la faire à l'envers.
C'est moins intéressant.
Mais bien sûr.
Et donc, moi, je suis heureux quand même que nos adversaires brillent. Puis j'ai beaucoup de copains à l'Olympique de Marseille, notamment des humoristes, Redouane Bouguiraba, Arilas Amarani, qui a joué d'ailleurs dans 4-0, et Mohamed Eni, qui joue aussi dans 4-0, qui casse les téléviseurs. Je ne sais pas si vous connaissez cet individu. Il a brûlé une télé. Et c'est des phénomènes. Et Marseille Mais on peut reconnaître aussi, effectivement, le travail de Jean-Louis Gasset, qui a pris cette équipe qui était quand même un peu fatiguée. Il a fait du gros travail avec Laurent Blanc à l'époque au Paris Saint-Germain, je le connaissais.
Il a fait du gros travail aussi avec l'équipe de France de football.
Voilà.
Il était l'adjoint de Laurent Blanc. Voilà.
C'est un grand monsieur du football.
Exactement.
Et qui a pris des principes simples quand il a repris l'équipe. Et il leur a redonné confiance. C'est pas une mince affaire. Bravo.
Océane Daniel, votre avis sur Marseille?
Jacques, on va retenir la qualification, mais on n'a pas vu un grand match de football hier. On peut pas dire le contraire. Il faut le dire.
Vous avez raison. Sur le fond, vous avez raison. Mais quelque part,
le tableau d'affichage.
Ce soir, à 20h34, on est content.
L'OM est qualifié.
Donc le
Marseille en finale de Coupe d'Europe.
J'aurais aimé que Lille soit qualifiée, mais bon, c'est comme ça.
Oui, donc je voulais revenir sur le match de Marseille. On n'a pas vu un grand match, très peu d'occasions des deux côtés. Ils n'ont pas vraiment réussi à mettre en difficulté cette équipe de Benfica. Benfica non plus, c'était un match très fermé. Le problème de l'Olympique de Marseille, c'est, je pense, dans les 25 derniers mètres, soit ils font le mauvais choix, soit ils font une erreur technique. Mais la finalité, c'est toujours la même. La Aubameyang donne un caviar pour Mbanyama.
Un caviar, pour les auditeurs d'Europa 1, qui ne s'intéressent pas bien au football, on peut dire que c'est ballon de but.
Une passe décisive merveilleuse pour que le joueur termine.
On appelle ça du caviar.
Une offrande,
exactement. Voilà. Et donc, oui, je voulais aussi noter Jean-Louis Gasset, qui a fait des changements qui ont été bénéfiques.
J'ai l'impression que c'était moi.
Il a 70 ans, j'ai 76 ans.
Bon, après, il n'avait pas.
Je fais carbo ?
Non,
pas du tout.
Et on voit les audiences d'Europe 1.
Alors, sachez que vous êtes 150 000 à écouter notre émission, le studio des légendes, les vendredis, samedis et dimanches. De 20h à 21h,
voilà,
et au nom de toute l'équipe du studio des légendes et de toute la grande famille d'Europe 1, eh bien, je vous remercie. Et merci surtout à Benoît Levionnois, qui est notre réalisateur, et surtout l'un des hommes les plus indispensables, en tous les cas, de notre équipe, c'est Hugo Levé. Voilà.
Ouais, voilà. Faut les féliciter. Gros travail.
De Benoît.
Grosse équipe.
Parce qu'il y a une équipe derrière qu'on ne voit pas. Il y a une très grosse équipe.
Et Hugo, il est encore mieux maintenant avec sa nouvelle teinture. Ouais. Non, il est bien. Regardez sa nouvelle teinture. Il lui va très bien. Hein. C'est un petit peu gouré sur la couleur, mais il va très bien.
Oui, c'est le marron écureuil qui ne va pas.
Le marron, voilà. Le blazer rouge aussi, c'est un peu, ça surprend un peu. Bon,
pas... Surtout les pommes jaunes.
Ah oui, ça surprend un tout petit peu. Bon, alors on revient à Marseille.
On revient à Marseille.
Océane Daniel.
Oui, donc on revient à Marseille. Ils vont jouer l'Atalanta, une équipe italienne qui est 7e au classement, qui va falloir se méfier. Ils ont battu Liverpool. Très, ça va être de bons matchs. J'espère que Marseille va se qualifier pour la.
C'est le blazer rouge
qui me surprend toujours.
Voilà, Hugo Levé veut intervenir. C'est notre collaborateur dans cette émission depuis bientôt un an. Hugo.
Une teinture, vous avez dit, Jacques.
Oui.
J'ai pas compris là.
Teinture, oui.
Teinture ou blazer?
Non, teinture, les deux. Vous avez une nouvelle teinture.
C'est un panaché.
Vous avez une nouvelle teinture, c'est un panaché.
Et j'ai assorti les deux.
C'est des chaussures jaunes qui ont un peu choqué Fabien.
Chaussures jaunes, teinture jaune et blazer rouge.
Oui, c'est surtout la longueur des chaussures.
La longueur des chaussures.
Ça devrait vous faire plaisir, ce couleur du RC Lens.
Ah, d'accord.
Ah, bah voilà.
Cyril de la Morinerie, on peut parler de Marseille?
Oui, l'Olympique de Marseille.
Ça vous plaît, hein?
J'adore. J'adore parce que l'Olympique de Marseille a encore prouvé que c'était un grand club. Il n'y a que les grands clubs qui peuvent réaliser des performances comme ça. Des grandes institutions. Parce qu'il y a des choses que d'autres n'ont pas.
Bah, j'aimerais bien que Bordeaux et Marseille remontent.
Alors, oui, mais parce qu'ils ont peut-être un peu perdu Bordeaux et Saint-Etienne. Il faut qu'ils retrouvent leur hargne, cette volonté, ce respect du maillot, ce respect de l'histoire.
Marseille, c'est extraordinaire.
Même si Saint-Etienne, ça va bien, hein, ça va très très bien. Saint-Etienne va retrouver son autre alien. C'est quand même très très bien. Moi, je pense que des soirées comme ça, c'est absolument incroyable. Il y a une communion, une fusion dans ce stade Vélodrome avec les joueurs qui sont restés de nombreuses minutes là pour communier, qui était absolument dingue. Les tirs au but, ça se prépare. Paul Lopez, il les a préparés avec les autres gardiens de l'équipe pour voir exactement où il fallait partir sur chaque tireur. Et donc, ça a été aussi un travail d'équipe. C'est ça qui est formidable dans le football, c'est qu'il y a un travail d'équipe. Donc moi, je pense que voilà, l'Olympique de Marseille, évidemment, va falloir se méfier parce que, comme le disait Alain Giresse, c'est moins clinquant. L'Atalanta, Bergame, qui sont sixième de Serie A, c'est ça.
Septième de Serie A.
Même septième. Donc voilà, c'est pas la plus grosse équipe. C'est pas le Milan AC, c'est pas l'AC Milan, c'est pas l'Inter, c'est pas la Juve. Mais c'est une équipe qui tourne très très bien et il faudra s'en méfier.
Je vais juste dire un mot sur l'Olympique de Marseille. Et j'ai toujours aimé les Brésiliens qui venaient à l'Olympique de Marseille. Les premiers, c'était Paulo César, Jairzinho, ils innovaient à l'époque. Et là, il y a un Brésilien que moi que je suivais et j'étais triste qu'il n'en fasse pas plus, c'est Luis Enrique. Et là, hier...
Très bonne entrée.
Avec l'entraîneur du Paris Saint-Germain.
Il est reparti à Botafogo, il est revenu. C'était un joueur que je suis. Et hier, j'étais contente quand même qu'il fasse un grand match.
La victoire, oui. le dernier penalty.
Voilà. En tout cas, bravo, j'aime bien ce joueur.
Le studio de légende, avec plein de personnalités, 20h, 21h... C'est en direct sur Europe, écoutez.
Ah oui, c'est Jump, là. Musique de l'OM, pour l'entrée des joueurs.
Mais oui, on fait plaisir. On fait plaisir à Fabien.
Et pour l'Olympique de Marseille, Fabien Otaniente. Voilà.
Il faudrait... Le service médical est ouvert à Europe 1, sauf si à 20h40, pour
répéter le 17.
Oui, on rappelle 17, on va le prévenir. Donc, le studio des légendes, 20h-21h, c'est sur Europe 1, en direct avec Alain Giresse, Maxime Hérignoux, Océane Daniel, Cyril de la Morinerie, Fabien Taniente, Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby, nous a parlé des trois premiers matchs de l'équipe de France de rugby féminine, Benoît Levionnois, notre réalisateur, et Hugo Levé, qui est actuellement en train de réfléchir à sa vie. Il s'est fait une teinture, il a des chemises rouges, un blazer vert et des baskets oranges. Donc voilà, mais c'est pas grave, hein.
Vous dites baskets, moi je les vois beaucoup plus longues.
Voilà, c'est pas grave. À tout de suite, à tout de suite.
Europe 1.
Bonjour, c'est William Lémergie.
Balade en France.
Dimanche, à partir de 11h, nous nous rendrons à Rouen, en Seine-Maritime, pour un voyage immersif dans la toute nouvelle cité viking qui va bientôt ouvrir ses portes. Nous prendrons ensuite la direction de l'Ariège pour visiter les plus grandes carrières de talc à ciel ouvert du monde.
Balade en France. William Lémergie sur Europe 1.
Je vous donne rendez-vous dimanche de 11h à 12h30 sur Europe 1.
Bonjour Anne, vous êtes aidante.
Oui, depuis 2 ans, maman est seule et je passe la voir tous les jours pour l'aider et qu'elle puisse rester chez elle.
Parlez-moi d'Intégrance.
Intégrance, c'est la mutuelle de maman et c'est aussi la mutuelle qui prend soin de moi. Entre maman, les enfants, mon travail, ça devient compliqué pour moi. Intégrance nous propose des solutions, ça nous aide beaucoup toutes les deux.
Comme Anne, presque un salarié sur 4 aide un de ses proches et s'expose à un épuisement physique et psychologique. Aidant, senior ou employeur, faites-vous aider. Rendez-vous sur intégrance.fr.
Le délit d'initié est interdit en bourse, mais autorisé et même indispensable pour gagner aux courses. Toujours bien informé, le journal Le Vénard s'engage à rembourser 100 euros par jour à chacun de ses lecteurs si ses pronostics ne sont pas à l'arrivée. Avec Le Vénard, pas de blabla, des résultats.
C'était un communiqué de Thierry Léger, directeur du quotidien épique Le Vénard.
Europe 1.
On est sur le toit du monde, on est sur le toit de l'Olympe.
20h, 21h.
Le studio des légendes.
C'est vrai que j'ai fait une ligne droite époustouflante.
C'est une histoire qui est en train de se raconter, elle n'est pas terminée.
Même si je suis un grand joueur de foot, comme les mômes me le disent, pour ça je suis fier, mais j'ai pas envie de me le dire.
Jacques Vendroux.
Alors, je vais vous dire un truc tout de suite. On va être très clair. Ce n'est pas de malentendu. J'adore ce générique. Ah, il est extraordinaire. Voilà. Et vous avez entendu Wendy Renard. Oui. Magique.
Zinedine Zidane.
Yannick Noah. Zidane et Marie-Josée Pérec. C'est ce qu'on fait de mieux actuellement. Ah. Merci de leur collaboration au générique du studio des légendes. Hein. On va parler du championnat. Ça ne vous dérange pas? Je vous donne le programme du championnat de cette 30e journée. Nice-Lorient, ça va commencer. Il y a Lens-Clermont, il y a Lille-Strasbourg, il y a Brest-Monaco, il y a Nantes-Rennes, il y a Le Havre-Metz, il y a Reims-Montpellier, il y a Toulouse-Marseille. Et dimanche soir, on va en parler longuement, il y a forcément un match qui nous intéresse tous, le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais.
J'y serai avec mes caméras.
Et bien voilà.
Voilà, dans le virage
d'Auteuil. Vous êtes omniprésent actuellement, Paris Saint-Germain.
Ah ben là, je suis omniprésent. Et puis je suis content d'y être parce que je suis à la base un supporter du Paris Saint-Germain.
Alors, on va commencer par un match qui va commencer dans environ 15 minutes. Nice-Lorient, quel est votre avis, Alain Giresse?
Ah, c'est un match qui oppose deux équipes.
Vous avez l'air content de le présenter, ce match.
Et si vous êtes sûr, c'est le deuxième yaourt. C'est le deuxième yaourt.
Bien sûr, Jacques. Bon, si on prend le programme
Bifidus
de ce week-end, c'est pas le match qui me qui
m'inspire. Oui, mais je suis obligé d'en parler puisque ça commence dans un quart d'heure.
Mais Jacques, vous parlez de ce que vous voulez.
Non. Je suis avant tout journaliste et il y a l'actu. L'actu, c'est dans moins de 15 minutes. Nice qui reçoit Lyon. Voilà. Donc on va l'évoquer rapidement, c'est tout. Rassurez-vous, Alain, on va pas faire long, que visiblement ça vous gonfle.
C'est Nice qui va essayer d'agripper les places européennes. Ils n'ont pas en ce moment des performances qu'ils avaient en début de saison. Et puis derrière, Lorient, c'est essayer de s'échapper de cette place de barragiste et ça va être très compliqué. Donc oui, un match qui peut être intéressant vu les perspectives et les objectifs des deux équipes. Donc voilà.
Ouais, on va demander à Maxime Mérignot, qui regarde son portable. Non, parce que Maxime Mérignot, il est en train de regarder toutes les statistiques de ce match entre Nice et Lorient. Alors allez-y.
C'est deux dynamiques un peu similaires, hein, parce que.
Ah bon?
Oui, mais pas.
C'est les mêmes villes aussi, non?
C'est pas très loin, oui. A priori, c'est un derby d'ailleurs.
Oui, c'est un derby.
Donc Nice-Lorient, Lorient qui avait enchaîné 3 victoires au mois de février et qui depuis 4 matchs n'arrive plus à n'a pris qu'un point. Alors c'était à Monaco, c'était un beau résultat au mois de mars. Mais bon, ils sont premiers barragistes. Il faut engranger des points parce qu'il ne reste plus beaucoup de journées.
Lorient est en grande difficulté. Attention, faut pas se faire à l'envers là aussi. Hein.
Et alors là, ils vont à Nice.
Très compliqué.
Ils vont recevoir le PSG ensuite ils vont recevoir Toulouse, enfin bon là il faut engranger des points parce que le maintien n'est pas du tout fait. Et puis pour Nice pareil, l'entraîneur Farioli qui a connu un début de saison assez tonitruant aujourd'hui peine à retrouver des bons résultats, les résultats qu'il avait en début de saison, et s'il veut accrocher l'Europe il va falloir battre une équipe qui se bat pour le maintien.
Voilà. Océane Daniel.
Oui, Nice est 5e du championnat, s'ils gagnent ce soir ils sont assurés de rester à la 5e place même malgré les résultats des concurrents. Ils doivent renouer avec la victoire, ils sont sur un match nul contre Reims qui n'était pas folichon, comme on dit, et une défaite contre Nantes à domicile.
Folichon.
C'est quel joueur, ça?
Vous aimez bien ce mot ou pas, Jacques? Ça vous plaît?
Ça me plaît beaucoup, bon, folichon.
Je vais le renvoyer alors.
Anthony Folichon. C'est un attaquant, non?
Non, mais c'est une expression.
Ah, c'est une expression, ah oui, voilà.
C'est pas folichon.
Non, c'est pas folichon.
C'est une expression qui vient de la terre. C'est pas folichon.
Exactement.
Oh, c'est pas folichon.
Bon, allez.
Et du côté de Lorient, premier en Ligue 1, ils peuvent sortir de la zone de relégation et passer devant Lorient en cas de victoire ce soir.
Et mon ami Cyril de la Moriterie.
Oui.
Vieille famille de Reims. Vieille famille rémoise. J'aime le dire parce qu'il est très très connu à Reims.
Ah oui, c'est vrai. La particule
avec
de
la
Morinerie.
Particule de la Morinerie.
Un chevalier.
En plus, vous allez à Reims bientôt en plus.
Oui, je vais. Mercredi.
C'est quand même un club familial qui nous a
reçu. Chez notre ami Monsieur Caillot.
Ouais, exactement.
On salue le président Caillot, ouais. qui vous aime beaucoup.
C'est réciproque. Et ouais. C'est un très très bon président et on lui doit beaucoup,
grand
évidemment. Du côté du Stade de Reims, d'avoir remonté ce club. Alors, on parle de Nice-Lorient.
Et le supporter du Stade de Reims, vous connaissez. Éric de Moulin-Beaufort.
L'archevêque
de Reims.
Et le président de la Conférence des évêques de France.
Voilà, exactement. Ça qu'on le salue. Je ne sais pas s'il nous écoute, mais on le salue.
Écoutez, peut-être. Hein, en tout cas, Nice-Lorient, d'un mot. Il n'y a pas évidemment exactement la même trajectoire pour les Niçois et les Lorientais. Pour les Lorientais, c'est évidemment un objectif de rester en Ligue 1. Ce n'est pas évident parce qu'ils ont un calendrier difficile avec le Paris Saint-Germain, Lens et Marseille. Et puis pour Nice, c'est une victoire en 10 matchs. Et donc, il y a une dynamique qui est très compliquée pour les Niçois d'une certaine façon, même s'ils sont quand même 5e et donc dans une position où ils pourraient se retrouver européens la saison prochaine. Donc pour Nice, c'est de grappiller donc des points qui pourraient être précieux pour l'Europe.
Fabien Teniente.
Moi, j'ai une passion aussi quand même. J'aime bien que dans le championnat de France, il y ait les Aiglons. Donc j'aimerais les voir bien figurer. On est un petit peu déçus par l'attaquant Mofi qui, depuis la CAN, ne fait pas grand-chose. Mais c'est quand même. C'est
il n'a pas marqué depuis 4 matchs. Ouais,
et il est titulaire ce soir.
Et d'ailleurs, je crois que l'équipe qui titrait Mofi, Miraisin, c'est-à-dire que c'est pas encore au point, quoi. Et puis Lorient, je les ai un peu moins suivis pendant mon tournage. Mais je ne sais pas ce que fait Benjamin Mendy dans cette équipe, s'il joue, s'il est titulaire. Mais je pense que ça, c'est pas une réussite, quoi.
Non, il joue plus.
Non, voilà. Il joue pas.
Et voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup le Jean-Claude Blanc, ouais, qui nous a aidé à aller au départ de notre histoire avec le Paris Saint-Germain, qui est parti après et qui est à Nice. Donc, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc, je lui souhaite la réussite.
On peut parler de Nantes-Rennes, gros derby, hein. Derby
notre
avec
ami Antoine qui est revenu. Ouais, qui est revenu, voilà, je suis un inconditionnel.
Ah, moi aussi, je ne devrais pas le dire parce que vous savez qu'un journaliste n'a pas le droit d'avoir des préférences. Il faut être objectif, il faut être
au-dessus
de tout. Mais c'est comme ça la vie. Comme ça.
On s'appelle souvent avec Antoine.
Il y a les donneurs
pour les anniversaires, pour les Noël.
Il y a les donneurs de leçons de la vie, ouais, même parmi les journalistes sportifs.
Bah ouais. Mais Antoine, on a le droit d'avoir un avis. Voilà. C'est un canac qui mène bien sa barque et c'est un gars droit entier qu'on adore. Aux variétés, il est fantastique si je le croise de temps en temps.
Et Nantes-Rennes. Alors, donnez-moi votre avis sur Nantes-Rennes. Alain Giresse, Nantes-Rennes.
Surtout par rapport pour Antoine, évidemment. Et j'espère qu'il va arriver à son objectif de sauver et de maintenir cette équipe en première division, parce que voilà, c'est quelqu'un de formidable. Et bon, moi, ce soir, c'est un derby. Alors, une équipe de Rennes qui est un petit peu en ce moment, qui est un petit peu dans le dur, mais ça reste toujours un derby, un match particulier. Et bon, voilà, donc assez incertain quant au résultat, mais deux équipes effectivement qui n'ont pas non plus la même trajectoire. Donc moi j'ai une appréciation pour Antoine à travers ce match. Donc souhaitons lui le meilleur pour cette rencontre notamment.
Ah, moi j'aimerais bien, même si j'aime beaucoup le Stade Rennais, oui, c'est vrai que j'aimerais beaucoup que Nantes reste en Ligue 1 et qu'Antoine Comboiré, eh bien, reste la saison prochaine l'entraîneur de cette équipe du Football Club de Nantes.
Et puis l'histoire est belle quand même, parce qu'on a reçu Valdemar Quita, qui est le président, et qui nous explique que bah ils sont pas copains en fait, mais qu'il a pour le bien du club, bah il a décidé de le faire revenir. C'est un esprit de responsabilité.
C'est une forme d'intelligence.
Oui. Il le fait revenir à minuit après une défaite du Football Club de Nantes. Ouais. Il lui téléphone, ouais, et il lui dit, maintenant il y a prescription, je peux le raconter. Il lui téléphone. Bonjour Antoine, bonjour coach, bonjour président, etc. Patati, patata. Je ne vous aime pas. Et je sais que vous ne m'aimez pas.
Ouais.
Et qu'on ne peut pas travailler ensemble. Et qu'on n'a pas les mêmes idées de la vie, et on n'a pas les mêmes idées sur le football. Mais dans l'intérêt du FC Nantes, je vous demande de revenir. C'est Antoine qui me l'a raconté.
Fantastique.
C'est magique. Ah ouais.
Mais je sais qu'il m'avait dit, Antoine, qu'il aimait bien que le président se tienne à distance.
Oui.
Comme nous, les réalisateurs, on peut mettre les producteurs à distance parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes idées. Mais l'important, c'est le résultat.
Non, mais il a l'honnêteté de le dire.
Et c'est un gars que j'adore, moi, qui est d'une droiture. Comme il en existe peu, parce qu'on en connaît des zigzags Laguenon. Mais lui, il est droit comme un i.
Il est faux cul.
Il est focus, voilà.
Dans le football, il y en a quelques-uns. Hein,
à moi, tous les étages.
Voilà. Bon, Nantes-Rennes, d'accord, c'est un match qui nous excite parce qu'il y a Antoine Comboiré, Océane Daniel.
Oui, Nantes est 14e du championnat.
C'est bien de le rappeler, le classement.
Oui, oui, 14e.
Ouais, merci, Océane.
Avec plaisir. Ils doivent gagner à domicile pour se rapprocher du maintien et confirmer leur victoire contre Le Havre sur le dernier match à la dernière minute quand Kader Bemba met le but de la victoire. Du côté de Rennes, ils doivent retrouver le chemin de la victoire après quatre défaites de suite. Et s'ils veulent encore croire à la Coupe d'Europe, ils doivent gagner demain.
Sauf que Nantes joue à domicile. Donc c'est un avantage considérable. Oui. Cyril de la Morinerie.
On a beaucoup parlé d'Antoine Comboiré. Moi, je voudrais qu'on parle de Julien Stéphan, qui est l'entraîneur de Rennes, qui est le fils de Guy Stéphan.
Mais qui est un super entraîneur.
Et qui est un entraîneur incroyable.
Qui a obtenu des résultats très positifs à Rennes.
Oui.
Et à Strasbourg. Et il revient à Rennes.
Et entre nous soit dit, peut-être que, il s'est dit ensuite quand il a quitté Rennes, parce que c'est une décision qu'il a prise, hein. Il faut quand même se rappeler que c'est lui qui a démissionné.
Et il a dit après qu'il avait fait une connerie.
C'est la famille Pinot qui a décidé de le maintenir, parce que c'était vraiment leur choix. C'est lui qui a remporté la première Coupe de France depuis des années, 48 ans, enfin pour Rennes. Et donc c'est un peu le héros, quoi. C'est pour la famille Pinot, qui est une grande famille industrielle française, qui a investi énormément dans le foot et dans le Stade Rennais. C'est quand même une chance chance d'avoir la famille Pinot dans le foot français. Mais d'avoir cette récompense-là, moi j'étais au match, c'était incroyable, l'émotion que ça pouvait, on pouvait avoir au Stade de France. Et donc, il revient, et il a des résultats qui sont plutôt positifs. Alors, ils sont dixièmes dans le ventre mou, il arrive dans une situation où il n'a pas pu lui-même gérer les recrues, les choix, etc. Et il fait globalement du bon boulot. C'est un entraîneur actuel, mais c'est aussi un entraîneur d'avenir. Je pense qu'on va en entendre encore parler.
C'est une équipe qui a des belles valeurs. Et vous parlez de François Pinault, je connais un des sponsors, Thierry Geoffroy, qui est sponsor de Samsic, qui a participé à notre film. Et c'est des Bretons qui ont des valeurs costauds, pragmatiques. Et c'est une belle équipe aussi. Je souhaite, en fait, on a envie de souhaiter aux deux équipes l'une de se maintenir.
Non, mais c'est deux équipes qu'on aime bien.
On est partagé.
C'est deux équipes
majeures du championnat aussi, comme on parlait de l'Olympique de Marseille, de Saint-Étienne, des Girondins. On ne peut pas faire sans dans un championnat.
Avec un public incroyable, hein, que ce soit à Nantes ou à Rennes, avec notamment une jeunesse. Ce qui est impressionnant, c'est de voir au fil des années l'équipe nantaise, qui est une équipe mythique, avoir de nouveaux supporters venir à la Beaujoire. Là, récemment, je crois qu'il y a le COP Brigade Loire là, qui a fêté plusieurs années, enfin son anniversaire d'existence, et ça a été important.
Ils ont joué à huis clos le dernier match.
Le seul regret que j'ai, c'est qu'on débaptise les stades. Pour moi, c'est le stade de la Route de l'Orient. Ça me fait plus rêver.
Oui, qu'au Horizon Park.
Voilà. Le stade Geoffroy Guichard.
Voilà.
Le stade Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux.
Voilà. J'adore d'ailleurs. Là où le variété va jouer.
Le 14 mai. Ils sont tous là. Tous les amis d'Alain Giresse sont là. Je vous le dis tout de suite.
Mais j'aime quand on garde le nom des stades.
C'est loué.
Et on aime les stades en centre-ville, Fabien.
Et on aime les stades en centre-ville. Le stade de Bordeaux, le nouveau, il paraît-il, est difficile d'accès.
Le stade Vélodrome de Marseille.
Voilà, il faut
c'est
dire.
Mythique. C'est mythique. Le stade Bollard. C'est mythique.
La Méno.
Le stade de la Méno, c'est mythique. Voilà.
Il faut y aller.
Bon, justement, puisqu'on parle du stade Bollard, un petit mot sur Lens Clermont à la Giresse.
Mais Lens Clermont, ça va être un peu compliqué pour Clermont. Dommage pour mon ami Sébastien Michard qui va prendre les rênes de ce club, mais ça va être compliqué pour eux. Lens a besoin, en plus, de retrouver le succès, même à domicile. Donc, je pense que ce match, la différence va être en faveur du Racing Club de Lens, qui va encore pouvoir compter, avoir la possibilité de rester dans les places européennes. Donc, je pense que le match, malheureusement pour Clermont, va pas tourner en leur faveur.
Maxime Hérignot.
Oui, pour moi, Clermont...
Très joli votre pull.
Vous aimez bien? Mais vous aimez souvent mes pulls?
Non, je voulais le partager avec les auditeurs d'Europe 1.
La casquette aussi, Jacques.
Rendez-vous sur Europe1.fr pour voir, parce qu'il y a la caméra,
c'est une émission vous avez un gros avantage en mettant ce pull.
Oui.
Vous pouvez le laisser à n'importe quel endroit.
Personne ne le volera.
Personne ne va vous le voler.
Vous m'avez déjà fait ça.
C'est une spéciale Jacques Van Gogh.
Non, mais je vous le dis,
je l'ai déjà eu sur quelques.
Non, mais attendez. Autant dire la vérité. Là, je le dis officiellement à la radio. Vous avez un pull, vous pouvez le laisser dans le métro, vous pouvez le laisser dans un bus, vous pouvez le laisser dans le studio d'Europe 1, personne va vous le piquer. Bon, allez-y, bah, votre analyse. Principal.
Non, voilà. Lens Clermont, Clermont, dernier de Ligue 1, pour moi, ne se sauvera pas. Hein. Ils vont à Lens, qui a absolument besoin de points, les Lensois, pour croire encore à l'Europe. Ils iront également à Monaco, les Clermontois, ils vont recevoir Lyon. Enfin bon, pour moi, ça paraît mission impossible. Et le réveil n'aura pas forcément lieu à Lens ce week-end. Et Lens a grillé quelques cartouches ces dernières semaines en perdant des points par-ci par-là. Donc voilà, ça va être pour moi une victoire de Lens assez facile. Je pense.
Océane Daniel est en pleine forme ce soir.
Oui.
Elle a joué à la Fiorentina, elle a joué à Bordeaux, elle a joué à Rodez. Wow. C'est une bonne chose de football. Voilà.
Merci, allez. Jacques.
Océane,
merci.
Allez-y.
Donc oui,
je sais que vos parents vous écoutent.
Aussi.
On les embrasse. Voilà. Allez. Bon. Ah oui, tant qu'à faire.
Ah bah, je les embrasse aussi. Bien sûr.
Lens doit gagner à Bollard, ils doivent retrouver la victoire. Sur leurs 4 derniers matchs, ils ont fait 3 défaites et un match nul. Ils sont 6e du championnat. Rien n'a encore perdu pour jouer la Coupe d'Europe. Ça va passer par une victoire demain contre Clermont. Pour Clermont, c'est une situation totalement différente. Ils sont derniers de Ligue 1 avec 4 points de retard sur Metz. s'ils veulent espérer le maintien, et ça doit passer par une victoire demain à Lens, mais ça me semble très compliqué pour eux.
Cyril Delamorinerie, rapidement.
Bah, ça va être, à mon avis, très compliqué pour Clermont. De toute façon, ils sont derniers. Et puis, on a une tendresse, je pense, pour Lens. Évidemment, on aime les Clermontois, mais les Lens, ça reste mythique. C'est le Stade Bollaert. Franck Haes, qui n'a pas été très heureux de ce qui s'était passé contre Metz, mais qui espère une victoire contre Clermont. Donc, évidemment, il y a 9 chances sur 10 de voir une victoire lensoise.
En tous les cas, Fabien Otteniente, un petit mot ?
Oui, bah, je suis un peu triste pour l'entraîneur de Clermont, que j'aime beaucoup, mais là, la mission est vraiment difficile. Et je pense qu'ils vont aller au purgatoire. Et ça sera... C'est pas évident de remonter après.
Et demain, nous sommes à 97 jours du début des Jeux Olympiques. Vendredi 26 juillet, cérémonie d'ouverture. Au dimanche, 11 août, invité du studio des légendes exceptionnel, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra. J'en profite également pour vous dire que nous avons de plus en plus d'auditeurs, parce que là, vous ne m'avez pas bien entendu, sur Europe 1. Vous êtes plus de 2 300 000 à nous écouter tous les jours, et vous êtes 223 000 à nous avoir rejoints en un an. Et on termine, parce qu'autant de faire un peu d'autosatisfaction, le studio des légendes, 159 000 à écouter notre émission, grâce à tout le monde, et on est vraiment très, très contents. Voilà.
Merci,
Alain Giresse, Maxime Hérignoux, Océane Daniel, Cyril Delamorinerie, Fabio Otteniente, Florian Grill, Guillaume Varmuz, Benoît Levionnois, notre réalisateur, Hugo Levé. 20h-21h, le studio des légendes, c'est sur Europe 1. À suivre sur Europe 1 et Joe, votre émission musicale présentée par Joe Hume. Et Clap, c'est l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs d'Europe 1. Chaque samedi, 19h-20h. Laurie Choleva est avec nous en compagnie d'invités exceptionnels, passe en revue toute l'actualité ciné de la